Avant d'écouter un nouvel épisode de Prolongation, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Calcio EPP. C'est sur www.calcioepp.shop. Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast Prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter leur métier et découvrir ce qui les fait avancer au quotidien. Durant environ une heure, nous discutons de multiples sujets et de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est très simple, donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Des entraîneurs, des préparateurs physiques, des formateurs, des recruteurs, des agents, des joueurs et beaucoup d'autres encore passeront derrière mon micro dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de l'AJ Auxerre. Un confinement exceptionnel, cet entretien s'est déroulé à distance. Nous sommes revenus sur sa carrière, sur ses idées de jeu et sur l'importance qu'il donne à l'esthétique dans le football. Nous avons également évoqué la jeune génération de footballeurs, la difficulté de manager au quotidien et l'influence du football néerlandais sur sa vision d'entraîneur. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette conversation avec Jean-Marc Furlan. Bonjour Jean-Marc Furlan et bienvenue dans le podcast.
Bonjour Johan, bonjour à tout le monde, bonjour Johan.
Alors, dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué ? Alors, ça peut être par le résultat totalement brut, ça peut être par une belle émotion, ça peut être par un scénario très particulier qui vous a marqué, soit en tant que joueur, comme entraîneur, ou même comme simple spectateur ou téléspectateur d'une rencontre que vous avez vue et à laquelle vous repensez un petit peu de temps en temps, comme une espèce de Madeleine de Proust.
Ouais, c'est bien. L'image de la Madeleine de Proust, c'est super sympa d'ailleurs. Mais en fait, lorsque tu as fait 20 ans de carrière de joueur professionnel de 15 ans à 35 ans, Ligue 1, Ligue 2, et puis que tu as fait 20 ans d'entraîneur, sincèrement, le truc, c'est que tu as tellement d'émotions et de souvenirs. Alors bien sûr, quand tu poses cette question, il y a plein de matchs qui me reviennent rapidement. Mais pour en sélectionner un, c'est extrêmement difficile. Si, par exemple, je te dis une fois, j'avais amené mon gosse, parce que Zizou, Zizou avait organisé un match pour un drame en Algérie, c'était, je crois, un tournoi de terre comme ça, au Giron et au Bordeaux, il avait à Chamanelmas. Et je me suis retrouvé en fin de match, debout, en train de crier « Zizou, Zizou, Zizou ». Et j'avais 50 piges, quoi. Je te dis, qu'est-ce que c'est ? Et puis, tu as des matchs, beaucoup de matchs. Je peux te citer aussi le match avec Libourne, quand on élimine l'Olympique Lyonnais, qui vient de faire un quart de finale des champions. Je peux te citer aussi mon premier match à Chamanelmas contre l'OM, alors que j'avais 18 ans. Donc, c'est une foule de trucs. Il y a une foule de trucs, c'est assez logique et assez légitime, que ce sont les relations sociales qui sont importantes. C'est ce que me disait Didier Deschamps une fois, quand j'étais à Clairefontaine avec lui. On était ensemble pour passer le diplôme d'entraîneur professionnel. Et je lui ai dit, mais toi Didier, t'as tout gagné, sans déconner, t'as tout gagné comme joueur, entraîneur. Et c'est quoi qui te ressort le plus d'avoir tout gagné. Il me dit, mais j'en ai rien à foutre d'avoir tout gagné, Jamar. Ça, c'est bon pour les almanachs, c'est bon pour la presse, c'est bon pour le marquage comme ça. Mais j'en ai rien, strictement rien à faire. Ce qui m'importe beaucoup, ce sont les relations sociales, c'est les émotions que j'ai eues, diverses et variées, en fonction des groupes et de ce qu'on vit ensemble en tant que joueur ou comme entraîneur. La dernière, Joanne, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, en plus, je vais le citer, c'est une défaite. C'est avec le Stade Brestois, il y a un an. On était à quelques matchs de la fin, et on jouait, puisqu'on est monté en Ligue 1, on jouait la montée. Et on reçoit Valenciennes. On reçoit Valenciennes et on perd 4-2, si mes souvenirs sont bons. Ce qui m'a beaucoup marqué, même mon staff, c'est qu'on était assis sur le banc, on était issus. Il y a des fois, il y a des fêtes qui te relancent, parce qu'en fait, ce défaite nous a permis d'aller chercher. C'est incroyable, mais ça fait partie de ça. Quand tu es entraîneur, tu sais qu'il y a certaines défaites, ce que dit Pep Guardiola, qui te permet d'aller chercher des choses fantastiques derrière. On perd 4-2 et il y avait 8, 10, 12 000 personnes au stade. Le stade était plein. Francis Aubé, c'était plein. Et à la fin du match, pendant un quart d'heure, tout le public était debout à encourager ses joueurs et à crier « Stade Brestois, Stade Brestois ». Et là, avec le staff, on se regardait, on s'est dit, mais il n'y a que là-bas que tu peux connaître ça. Il n'y a que des endroits comme ça. C'est-à-dire que, alors que tu joues la montée, que tu perds 4-2, et alors, c'est vrai qu'on dominait beaucoup, et depuis le début du match, on était pris en contre. Et bien, ça, c'est une émotion très, très forte de voir le public complètement en fusion avec ses joueurs depuis un an, et qui, malgré la défaite, eh bien, le public est debout et encourage toute son équipe. Ça m'a beaucoup marqué. C'est la dernière, tu vois. C'était il y a un an. Il y a un an. Ouais,
et c'est justement une belle preuve, on y reviendra par la suite, parce qu'il y a toute une thématique là-dessus, que en fait, le simple résultat ne compte pas. Il y a aussi beaucoup la manière, et les gens sont très attachés à la manière et ce qu'ils voient sur le terrain, et que c'est tout un processus, et que du coup, le fait que vous ayez beaucoup joué au football lors de cette saison-là, que vous ayez eu en plus des résultats, la défaite était moins décevante pour eux parce qu'ils avaient reconnu en leur équipe un espèce de processus au long cours durant toute la saison où ils étaient fiers aussi de ce qui avait été produit depuis le début de la saison. Et donc, même si ce match est une défaite, et ça c'est très très rare, il y a seulement quelques clubs ou entraîneurs qui réussissent à impacter ça, à impacter l'environnement du club et les supporters pour les emmener quelque part au-delà du résultat. Et c'est une belle preuve, au final, même si vous avez eu la montée à la fin, c'est une belle preuve du travail effectué à ce moment-là, depuis le début de la saison, qui se retrouve sur le terrain, et c'est pas un simple résultat sec lors d'un match, lors d'une soirée, qui va remettre en cause l'attachement des gens à tout ce qui a été produit depuis le début de la saison.
Mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça dépend vraiment, il y a cette capacité, effectivement, vos générations à vous ont cette capacité, effectivement, d'être plus exigeant sur la manière, sur les émotions qu'ils peuvent vivre. Nos générations à nous, les mecs entre 80 et 50 ans, c'est des mecs souvent, surtout le français, qui ont été dans une culture du rendement. C'est-à-dire que l'histoire du sport français, il est lié beaucoup par les présidents, c'est-à-dire que et par l'environnement, et c'est pareil dans tous les sports collectifs, c'est-à-dire c'est comptable. Alors que si tu vas, par exemple, dans certains pays, c'est très comptable, comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Belgique, attention, eux, ça ne leur suffit pas le côté comptable, il leur faut beaucoup d'émotions. Mais c'est vrai que vos générations à vous sont beaucoup plus attachées à ça, mais ça dépend de quel endroit. Et je reconnais que, tu vois, par exemple, je te raconte une autre anecdote, quand j'étais au Stade Brestois et j'étais vraiment en fusion avec ces gens-là, ces Celtes, alors que moi je suis un Gaulois, entre guillemets, comme toi, les mecs de l'intérieur. Et même si c'est pareil, tu vas me dire « Ah, Jean-Marc, ça va, tais-toi, c'est des Français comme toi. » Oui, c'est vrai, mais ils ont une mentalité festive importante. Et j'étais en début de saison, je venais d'arriver depuis 5-6 mois, et on avait perdu à domicile, et j'étais en train, je fumais une clope à l'époque sur le bord du terrain, il ne faut pas l'écrire, ça, je ne sais pas, tu le mets ou tu ne le mets pas. Bon, j'avais les boules, tu vois, on avait perdu 2-0 à domicile ou 2-1. Et arrivent 4 ou 5 ultras avec des bières à la main, chaud et chaud, chaud. Et les mecs, ils viennent, ils me disent « Coach, allez, on fait une photo, tout ça. » Ils me prennent par le cou. Je dis « Ça va, les gars, oh, j'ai les boules, j'ai perdu. Et vous faites la fête. Mais ça va, coach, on a fait un grand match, on s'est régalé pendant 1h30. Alors c'est bon, ça nous suffit. » Tu vois, Alors, tu vois, cette anecdote-là, moi, ça m'a beaucoup surpris. Tu l'entends pas partout, tu vois ce que je veux dire.
Mais justement, en fait, il y a plusieurs façons de laisser une trace dans le foot quand on est entraîneur. Il y a ceux qui ont absolument révolutionné ce sport. Il y a ceux qui ont accumulé les trophées et donc qui sont dans l'esprit collectif des ultra gagneurs, entre guillemets. On a une troisième catégorie de techniciens, ceux qui sont labellisés comme porteurs d'un football spectaculaire. Et justement, on accole souvent votre nom en France au beau jeu, à un côté, alors beau jeu ça veut tout et rien dire en fait, à un côté esthétique en tout cas dans votre façon de voir le football et de demander à vos joueurs de pratiquer le football. Est-ce que faire partie d'un petit groupe de techniciens, hein, parce qu'en France on n'a pas 50 profils comme le vôtre, d'un petit groupe de techniciens réputés pour leur football spectaculaire, est-ce que pour vous c'est aussi valorisant au final que d'avoir par exemple accumulé des trophées ou d'avoir gagné certaines compétitions? Est-ce que pour vous, quand vous vous retournez aujourd'hui un peu sur votre parcours, est-ce que le fait d'être labellisé comme entraîneur au football spectaculaire, c'est hyper valorisant?
Très, très, au fond de mes tripes, Johan, au fond de mes tripes. Moi, c'est le sens que je donne. Sinon, je ne serais pas venu entraîneur. Tu sais, j'étais entraîneur à Libourne, j'étais heureux, mais je voulais rester là-bas. Parce que j'ai vu tous mes entraîneurs souffrir, puis je me disais, avec la mentalité que tu as de ton style, entre guillemets, de ta façon de voir les choses, ne va pas là-bas, ne va pas en professionnel, parce que, ayant fait 20 ans de professionnalisme comme joueur, j'ai dit, tu vas te faire défoncer, c'est pas du tout l'état d'esprit Frenchy de chez nous. Et l'état d'esprit Frenchy, c'est la gagne. Et mais moi, on veut gagner, attends, implicitement, hein, moi je te le dis, je veux tout gagner, bien sûr. Mais je voulais pas y aller. Et c'est Aimé Jacquet qui m'a forcé. Et l'anecdote, elle est, je pourrais la raconter un jour si tu veux, mais elle est trop rigolote. C'est Aimé Jacquet qui m'a forcé. Et je suis devenu entraîneur professionnel. Mais moi, ça, c'est au fond de mes tripes. Il n'y a rien de plus pour moi, le football. Et effectivement, que ce soit très clair, le projet, c'est de gagner. Comme disait mon ami André Menot, que signifie projet? La définition, c'est gagner des matchs. Mais je ne peux pas, moi, on ne peut pas, comme dit Michel Onfray, on ne peut pas, la vie ne peut pas passer outre de l'esthétique. Et comment tu donnes des émotions aux gens, au-delà de l'esthétique, c'est comment tu donnes des émotions aux gens. Et moi, au fond de mes tripes, c'est effectivement, j'ai été profondément marqué. Je suis de la génération de ceux qui ont connu l'Ajax Amsterdam de Johan Cruyff. Et nous, c'était les premiers matchs à la télévision qu'on connaissait. Mais moi, j'étais profondément marqué par ça. Et en plus, comme j'étais un joueur ultra destructeur, j'étais un stopper, comme dit mon copain Dafoseka, il me dit, lui, chaque fois qu'il voit quelqu'un, lui, là, il me montre du doigt, il courait après un mec pendant 90 minutes. Il ne jouait pas au foot. Et donc, j'ai pris ce contre-pied. Et pour moi, à la fois, ce n'est pas que je suis fier ou quoi que ce soit, bien sûr que j'aimerais, j'ai tellement le sens que j'ai dans la mission, c'est comment rendre service aux joueurs de football et comment donner envie aux gens de venir au stade. Et au-delà du résultat. Parce que le résultat, au football, c'est le sport le plus aléatoire qui existe. Ça n'existe pas. Ouais. Tous les universitaires te l'écriront, tous les théoriciens te le diront. Le football représente la complexité de la vie, complètement. Et comme disait Menot, et je suis d'accord avec toi, il dit, j'osais pas le dire, peut-être que c'est le paradigme de la politique. C'est complexe, le football. Donc, comment tu as envie aussi d'être heureux, de rendre les gens heureux? Et tu te rends compte qu'en vieillissant, vos générations à vous sont beaucoup plus exigeantes et on a un meilleur regard sur des gens comme moi que mes générations à moi, vois-tu?
Est-ce que vous avez du coup parfois l'impression qu'il y a une différence de, puisqu'on parlait de regard, une différence de jugement ou même d'exigence entre, pour simplifier, on va dire un entraîneur offensif et un entraîneur défensif? Ça peut être à travers la presse, les supporters, même d'autres entraîneurs. On sait dans le foot, hein, les entraîneurs qui sont un peu théoriciens sont parfois présentés comme des intellos ou comme des professeurs, avec pour certains, hein, le mauvais côté que ça représente, côté un peu donneur de leçons. Est-ce que vous avez l'impression que on est beaucoup plus dur, beaucoup plus exigeant au final avec les entraîneurs qui prennent des risques en fait, qui prennent un football offensif?
Non, mais bien sûr. D'abord parce que surtout. Et surtout en France où on a une vision du sportif, il faut regarder l'origine. Et je ne vais pas ici avec toi faire l'origine du sport en France. Il faut savoir quand même que quand le professionnalisme a commencé en France, le seul pays qui n'a pas mis d'entraîneur, c'est nous. Hein, pour te dire un peu, c'est-à-dire qu'on mettait le capitaine comme coach. en 1933-34, et après on s'est mis à copier les autres, ce qu'on fait souvent. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de dans le regard du sport en France, et c'est pas que nous, au rugby c'est pareil, mes copains du rugby parlent comme ça, on a beaucoup plus de suite l'idée que tu dois gagner. Le seul bonheur, c'est de gagner, c'est de gagner des matchs. Donc on est beaucoup plus exigeant. Et en plus, ce qu'on dit souvent, c'est que des mecs comme moi, on dit, eux, ils vont pas en Ligue 1. C'est pas le football de la Ligue 1.
Exactement. Bah, c'est une réputation qui vous a suivi un peu. Hein.
Et oui, c'est une réputation qui me suit partout. Mais sans déconner, je m'en bats les couilles. Parce que ça, moi, ça va, je suis très heureux de ce que je vis. Évidemment, si tu vas au PSG ou tu vas à Lyon ou Marseille, arrête. Comme me disait Didier Deschamps aussi, pareil, quand on était à Clairefontaine, il me disait, Jean-Marc, moi, c'est pas compliqué. Je vais où il y a les meilleurs joueurs du monde. Et c'était merveilleux. Alors, et parce que tu sais pourquoi, Jean-Marc, tout simplement, quand tu as les meilleurs joueurs du monde, tu gagnes. Voilà. Eux, il te faut gagner. Alors, oui, mais je lui disais, oh, Didier, toi, tu t'appelles Deschamps. Moi, je m'appelle Furlan, je suis à Libourne. Il faut que je trouve une systémique et une méthodologie plus importante. Parce que, il faut arrêter de déconner. Tu crois que Lucien Favre, quand Lucien Favre est parti de Nice, j'étais malheureux pour le football français. Mais très malheureux. Parce que quand j'allumais la télé, j'allumais que la télé sur Nice quand il était à Nice. Parce que je me régalais, parce qu'aussitôt, hein, et il y en a un ou deux aussi en Ligue 1, qui, tu te régales en 15 minutes, tu vois déjà le travail accompli toute la semaine. Tu dis, tiens, là, il y a une directive. Je te parle sur le plan offensif.
Bien sûr.
Parce que sur le plan défensif, on est très très bien cultivé là-dessus. On nous apprend tout sur le plan défensif. On nous apprend beaucoup beaucoup sur le plan défensif. Le plus dur, effectivement, c'est comment tu prends le ballon, tu te cales dans les 30 mètres adverses et tu prends pas de but. Et il faut que tu claques. Ça c'est compliqué. Ça c'est très compliqué.
Mais justement, ce regard, est-ce que c'est pas aussi la vision de deux mondes qui s'affrontent, ceux qui considèrent le football comme un vecteur d'émotion, une sorte de, on peut le dire, de romantisme dans le football, et de l'autre, une espèce de froideur du résultat brut et une logique mathématique, en gros, réduire les risques au maximum pour gagner des matchs.
C'est un état d'esprit très très français qui existe depuis longtemps, mais c'est passionnant. Alors, je ne pense pas que ce soit uniquement Frenchy. Si tu vas en Italie,
bien
même
sûr,
s'ils progressent, ils sont... D'ailleurs, c'est là où les Espagnols ont été... à tout point de vue géniaux sur le plan de leur conception du sport, parce que moi j'ai cru voir le football espagnol mourir à l'époque où notre football devenait très très dur dans les années 80, fin des années 80, et tellement violent et tellement, et eux ils ont été très doués parce que quand sont arrivés chez eux les Hollandais, ils ont pris modèle parce que leur football a... Le football devenait tellement ultra violent et eux, ils ont pris notre directive. Mais c'est vrai qu'en France, tu as raison, en France, il y a vraiment ces deux oppositions. D'ailleurs, c'est un discours très politique et très intéressant, mais où celui qui dans le sport en général, moi, même des copains du rugby me le disent, ils me disent, Jean-Marc, si on prend des risques, tu perds deux matchs, le président et tout le monde arrive, on dit, allez, on plie, hein. On se met tous derrière, on attend.
Mais justement, est-ce que vous, les entraîneurs, je vous labellise du coup, je reprends ce label football spectaculaire, est-ce que les entraîneurs qui ont pour vocation de développer un football spectaculaire sont justement encore plus tributaires de la patience de leur président ? Parce que la personne qui peut vous couper la tête à tout moment, elle, il faut trouver cette personne-là qui s'intéresse plus à la manière, au final, qui amène le résultat qu'au résultat brut.
Non mais, évidemment... Les présidents qui veulent le Furlan, il n'y en a pas beaucoup, je te le dis. Il n'y en a pas. Comme me disait Thierry Gomez, il me dit, qui est un ami, moi, il me dit, que j'ai eu comme président à trois, il me dit, vous, chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous faites peur à tous les présidents. Et parce que, parce que c'est culturel chez nous, Joanne, c'est culturel. Mais le problème, on va arriver à des générations maintenant et une exigence médiatique. Une exigence visuelle, télévisuelle, qui va faire que on va pas pouvoir se contenter. Je dis pas forcément le mot spectacle est un peu galvaudé dans le monde du sport. Je dirais comment tu transmets des émotions par l'audace et la prise de risque. C'est ça notre style. Comme disait Alex Ferguson, que j'affiche partout où je vais. Voilà. Audace et prise de risque, c'est ça notre style, c'est notre philosophie. Voilà. Mais c'est au-delà du spectacle, parce que moi j'ai vu, ça m'est arrivé de voir des matchs très très forts en émotion, ce qui est le cas souvent, c'est pour ça que le football anglais plaît beaucoup depuis des dizaines d'années des décennies, depuis des décennies, le football anglais plaît, parce que même si eux, au niveau du foot, ils comprennent pas grand-chose, mais par contre, attention, parce qu'ils ont un très beau football.
Vous allez vous faire des amis.
Mais non, je ne vais pas faire des amis, c'est pas ça du tout. C'est que tu te rends compte qu'ils avaient un football très physique, quoi. Mais maintenant, ça a énormément évolué par l'apport qu'ils ont eu, l'intelligence qu'ils ont eu de l'apport des étrangers, voilà, qui sont venus. Et c'est un football qui a toujours plu. Nous, ça nous a toujours plu parce que ça plaît beaucoup, parce qu'il est très fort en émotion, le football anglais. Très, très fort. Très, très fort en émotion. Alors, au-delà du mot spectacle, c'est très fort en émotion sur audace et prise de risque. Mais c'est vrai qu'en France, tu l'exprimes très bien, et c'est logique. C'est l'histoire même de notre sport. Notre sport, c'est très simple. On a, d'abord, on joue avec les pieds, pas avec les mains. Ensuite, on a l'en-but pour claquer des buts, pour scorer, le plus petit qui existe de tous les sports collectifs, puisque nous, on a plus de 8000 mètres carrés de surface avec 22 joueurs qui s'affrontent en mélange continu, ce qui n'existe pas au hand, qui n'existe pas au basket. Ils sont que 5 contre 5 et ils jouent avec la main, à la main. Donc nous, le plus difficile, c'est de scorer. Donc le plus difficile, c'est ça. Donc c'est vrai que d'une façon très logique et très mathématique et très rationnelle, comment tu fais pour ne pas prendre de but, prendre zéro risque? Et puis tu attends que l'adversaire fait une faute. C'est en général la plus grande philosophie qui existe en premier chef dans le football. Logique, Joanne. Logique.
Et justement, pour revenir sur la patience d'un président, est-ce que du coup, vous comprenez que votre nomination à Nantes, elle est un peu étonnée, parce que le président Kita, qui a bien des qualités, mais n'est pas réputé pour être le président le plus patient. Et aujourd'hui, vous l'expliquiez tout à l'heure en début d'entretien, aujourd'hui, quand on va chercher Furlan, on va chercher aussi un projet. Et on épouse ses idées. Est-ce que vous comprenez du coup que c'est peut-être un espèce de mariage qui n'était pas finalement possible, en fait?
Oui, c'est un mariage qui n'était pas possible. Mais qu'est-ce que j'étais heureux d'aller à Nantes, maman. Parce qu'en fait, des générations comme moi...
Elles ont été marquées par le FC Nantes, c'est ça?
Ah ouais. Moi, j'ai essayé, quand j'étais au bâton de Joinville, j'étais avec Thierry Tussaud, avec Oscar Muller, avec Bono Steck. Moi, je les interrogeais en permanence. Moi, j'ai été inspiré totalement par Suodo, de Nouex et tous ces gens-là. Et moi, j'étais toujours en train, avec Thierry Tussaud en sélection et tout ça, de lui poser des questions. Et pour moi, quel pied, alors que je savais que ça serait très compliqué, parce que M. Kita, il fait tourner beaucoup les trucs. Mais quel pied pour moi d'aller à Nantes, parce que quand je rencontrais Nantes, moi j'étais dans un club, le Girondins de Bordeaux, formé au Girondins, où on avait un football très british. D'ailleurs, nous, on voulait s'exprimer qu'en anglais, presque. Les chansons, c'était les chansons anglaises, et c'était football british, très, très physique, très athlétique, et on tapait. Mais chaque fois qu'on jouait Nantes, c'était le football opposé. Et très souvent, pas toujours, mais on chargeait, on en prenait 3 ou 4. Et ça, c'est ce qui, toute ma carrière, ce qui m'a inspiré, c'est le FC Nantes. Alors, qu'est-ce que j'étais heureux, même si, j'étais très, très heureux d'aller à la journalière, ça, c'était vraiment génial, quoi.
Et justement, quand vous étiez dans cette position-là de joueur des Girondins, qui avait un style, du coup, british, face à un jeu nantais plus spectaculaire, c'était quoi? C'était un peu d'envie? Vous enviez un peu les Nantais de leur style de jeu? Vous projetiez, vous imaginiez dans cette équipe en vous disant si j'étais là-bas, quel pied je prendrais à évoluer dans cette équipe? Ou est-ce qu'il y avait cette idée-là, en tout cas quand vous affrontiez cette équipe?
Non, en fait, à l'époque, j'étais jeune, et j'étais un jeune du centre de formation des Girondins, donc j'avais 20 ans, 22 ans. J'adhérais totalement à notre... J'étais un scapulaire. Le scapulaire sur la poitrine. Donc je ne me posais pas ce genre de questions. C'est plutôt en vieillissant, après... Non, même pas en vieillissant, c'est quand j'étais à l'armée. Je me disais pas, en tant que Bordelais, pas du tout, parce qu'on avait une... encore plus que maintenant, les jeunes que nous avons comme joueurs professionnels, qui eux savent qu'ils vont bouger. Nous, à l'époque, dans les années 75-80, on s'identifiait totalement à la région où on était né, tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr.
Totalement. Et puis, comme on bougeait très peu, ça a commencé après, c'est justement en vieillissant, après, parce que moi j'ai fait beaucoup de clubs, on a commencé à bouger. Et moi, volontairement, pour m'enrichir, j'avais envie de bouger. En plus, comme j'étais très con à gérer, je me faisais souvent virer, quoi. Ou je me cassais moi-même, souvent, même quand j'étais entraîneur. Quand ça me gonfle, je me casse, c'est tout. Voilà, qui est contrat ou pas contrat, je me casse. Et quand ça me gonfle trop, et c'était pareil comme joueur. C'est pareil comme joueur. Ou alors je me faisais virer parce que ou j'avais frappé quelqu'un, ou j'avais, bon, voilà.
Alors on parlait comme du ça. Football Club de Nantes, du coup. On a parlé aussi du football néerlandais, mais vous avez des racines italiennes.
Oui.
Par votre père, c'est ça, si je dis pas de
oui,
bêtises.
Oui.
Est-ce que ces racines-là.
Parce que si tu veux, je viens de Fourland, ça veut dire langue du Frioul.
Ouais, exactement. Frioul, une très belle région du nord de l'Italie.
Et moi, j'adore, et j'étais très. Contrairement, un jour, j'ai eu un problème avec un journaliste à Strasbourg, comme quoi j'avais eu des problèmes avec Grosso, c'est faux. Les immigrés italiens, ils m'en ont voulu parce que j'avais eu un problème avec Grosso. Non, Grosso, il m'a envoyé une lettre merveilleuse, très, très proche de moi. Et je suis aussi. Très proche de la mentalité italienne. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est un Français? C'est un Italien qui fait la gueule. On est les mêmes.
C'est une belle définition. C'est une très belle définition.
Non, je déconne. Je déconne, mais je me sens. C'est un peu comme mes joueurs, nous, dans le football, c'est ça qui est merveilleux. On a différentes cultures, des gens qui viennent de partout. Voilà, t'as des mecs qui sont nés à Marseille, qui vont jouer pour l'Algérie. J'ai un joueur comme ça qui me demande, qui m'a posé la question récemment. Et c'est merveilleux parce que avoir deux identités, c'est ça qui fait que les gens s'aiment, que les gens arrivent à se partager, arrivent. Et nous, pour ça, dans le football, c'est merveilleux. Tu sais que si tu voyais la vie qu'il y a dans un vestiaire de football, il n'y a rien de plus enrichissant et de plus, comment dire, dis-moi le mot, de plus mondial, quoi. Ouais, mondialiste et de partage, de compréhension entre les cultures, entre les religions. Et ça, c'est. Et tout en se chambrant et en disant des gros mots, quoi. Tu vois, c'est ça qui est merveilleux, quoi.
Et est-ce qu'avec vos racines italiennes, du coup, vous avez eu un suivi particulier du football italien, ou est-ce que du coup c'était pas trop votre style de football, puisqu'on a désormais bien compris que vous étiez plus proche de la philosophie néerlandaise que de la philosophie italienne, surtout dans les années où vous étiez joueur. Est-ce que vous avez eu un suivi particulier du football italien ou pas du tout?
Oui, si, parce que mon papa m'en parlait beaucoup et il me faisait rire. Mon papa, il est plus là depuis longtemps, mais quand j'étais tout petit, je faisais mon équipe de France. Et il me disait, viens, montre-moi ton équipe de France, ça sur tes cahiers, je regarde, il me dit, il y avait Rostani, Baratelli, il me dit, mais oui, ils sont les Français. Non, c'était très instruit, et moi, je me suis beaucoup, beaucoup intéressé au football italien, parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont, autant ils ont vraiment aussi une culture du résultat, mais ils savent, c'est des gens très, très professionnels et très travailleurs. Et ils ont une qualité dans le travail, dans la qualité du travail, dans l'état d'esprit du travail et dans la discipline qui me plaît beaucoup. Parce que, attention, Joanne, tu peux, il ne faut pas croire, on va dire, ouais, Furlan, il aime le football offensif. Mais tu sais que moi aussi, j'exige et je suis très. Parce que plus tu veux avoir un football de possession du ballon et un football de gagne du terrain sur l'adversaire, eh bien, plus il faut que tu sois compétent sur le plan défensif.
Parce qu'il faut le récupérer aussi, le ballon, quand tu perds.
Mais oui, parce qu'il faut le récupérer, que tu as 50 mètres en ton dos. Quand on était au Girondin, nous, on avait les pieds dans les 30 mètres. Être un défenseur à les pieds dans les 18 mètres, ça, c'est facile. Par contre, comme je dis à mes joueurs, si je suis avant-centre et que je vois que mon arrière-central a les pieds sur la médiane et qu'il me regarde, qu'il me toise alors qu'il a les pieds sur la médiane, moi, je me retourne, je lui dis, tu m'insultes. Toi, tu mets les pieds sur la médiane, ça veut dire que tu m'insultes. Ça veut dire que tu mets 60 mètres et que tu ne vas pas claquer un but. Tu vois ce que je veux dire,
Jean? Ouais.
C'est-à-dire que le plus dur pour bien défendre, c'est quand tu défends très haut. Très, très haut. Mais je me suis beaucoup intéressé au football italien. D'abord parce que j'adore l'Italie, j'adore l'Italien. Et ensuite, parce qu'ils sont sur le plan du football, ils ont une vraie science, une vraie culture du travail, une vraie culture de. C'est des travailleurs et de l'enseignement du football, tu vois ce que je veux dire. Et ça a toujours été intéressant. La preuve, c'est que celui qui a été un qui a le premier relancé le football offensif et qui a été à l'origine, c'est Arrigo.
Oui.
C'est lui, dans les années 90, où que tout le monde a copié et qui a relancé, alors que le football italien était aussi a été aussi celui dans les années 50. Rappelle-moi l'entraîneur qui a été le plus défensif et qui a tout
Herrera, Elinho Herrera.
Voilà, c'est ça, exactement. Mais il a aussi produit des entraîneurs. D'ailleurs, lui, un entraîneur qui était très offensif et qui arrivait d'une division 2 ou une division 3.
Oui, que, oui, tout à fait.
Et que Berlusconi est allé chercher et qui, lui, a révolutionné quelque part le... Vraiment, même, il a révolutionné le football européen. Tu vois, un gars comme Christian Gourcuff qui adore le 4-4-2 et qui est un gars que j'aime bien son football, tout ça. Eh bien, lui, Christian, c'est pareil. Il a, quelque part, au départ, l'histoire du 4-4-2, ça vient de d'Arrigo Sacchi. Et non, si, je suis toujours beaucoup, beaucoup intéressé par leur qualité du travail, leur profondeur de leur travail et l'intensité de leur travail. Parce que c'est des gens qui n'ont pas peur de laisser les joueurs sur le terrain très durablement, matin et après-midi.
Et justement, d'ailleurs, ce qui est intéressant de regarder, c'est dans les années passées, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais dans les années passées, des clubs ou des sélections nationales qui avaient besoin de donner un petit coup de balai ou de rebooster leur groupe, etc., allaient souvent chercher des, ou qui avaient besoin de plus d'exigences, allaient souvent chercher des entraîneurs italiens. En termes de sélection, on peut penser à l'Angleterre qui allait chercher Capello. Enfin voilà, il y a beaucoup de, dans beaucoup d'endroits, les entraîneurs italiens se sont exportés après le grand boom des années 80-90 où le football italien était le meilleur en Europe en termes de là purement de résultats pour le coup. Et ils se sont très bien exportés par la suite dans des pays qui avaient peut-être un peu moins de culture du football ou dans des pays qui avaient besoin. Pays ou club d'ailleurs, qui ait besoin de relancer un peu la machine, d'apporter une nouvelle méthodologie. C'est évidemment un football qui a été très marquant, comme l'a été d'ailleurs le football néerlandais aussi, dans un autre registre évidemment. Et comme vous êtes un amateur, ou en tout cas un passionné de football néerlandais, vous parlez de Cruyff tout à l'heure, on peut parler aussi des années 60-70 où Cruyff là, pour le coup, était joueur, et avec Rinus Michels. Encore aujourd'hui, le football néerlandais, du coup, il est très marqué par des équipes offensives, donc ça doit vous plaire, j'imagine. On pourra éventuellement parler peut-être de l'Ajax la saison dernière en Ligue des Champions, qui a été une vraie épopée, qui a vraiment marqué, je pense, les amateurs de football qui sont un peu éloignés au quotidien du football néerlandais, on peut le comprendre. C'est football offensif, des jeunes joueurs, beaucoup de techniques dans les entraînements, le physique se fait avec le ballon. Moi, ce qui m'étonne toujours un petit peu, c'est... Alors, on n'est pas pays voisin avec les Néerlandais directement, on n'est quand même pas très loin. Qu'est-ce qui explique cet écart de pensée entre les entraîneurs français? Alors, je généralise un petit peu, puisqu'on voit que vous êtes à part avec d'autres, Christian Gourcuff, etc. Mais qu'est-ce qui explique cette vraie différence de pensée? Est-ce que c'est culturel?
Oui. Je crois sincèrement qu'il faut aller encore plus loin que ça sur le plan de notre culture sportive. C'est au-delà juste du foot, et c'est surtout les sports collectifs et la façon dont on a introduit le sport en France. Autant on peut être sur le plan dans plein domaine de l'art, de la peinture, du cinéma, dans plein domaine, on peut être des précurseurs. Autant sur le plan du football, la façon dont le football est arrivé, le football et le sport en général est arrivé en France, c'est la façon dont il est arrivé et qui était moins... D'ailleurs, le sport chez nous, il est arrivé par les classes sociales riches, alors que partout dans le monde, il est arrivé par les classes sociales pauvres. Et il a été pris comme un... au départ comme un loisir, comme quelque chose qui devait pas être important. Du coup, après, quand on est rentré vraiment dans la culture, on est vraiment rentré dans une culture entrepreneuriale, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a une culture du résultat. Et c'est pour ça que c'est vraiment différent. Les Italiens, eux, c'est un peu différent. Ils ont vraiment, c'est vrai qu'ils aiment gagner, etc. Mais ils ont une culture dans le sport et dans le football en particulier de travail absolument phénoménale. Et d'ailleurs, on les a beaucoup copiés, nous, sur la culture du travail au quotidien. C'est eux les premiers qui ont mis des centres d'entraînement où les mecs pouvaient rester au centre d'entraînement dans les années 50. Nous, on n'y est pas encore, ça n'existe toujours pas chez nous, où les joueurs doivent rester toute la journée au stade, parce qu'ils ont leur chambre, ils peuvent rester, ils ont leur bureau, tu vois. Et c'était déjà, eux, déjà, ils avaient fait ça dans les années 50-60. Et nous, on n'y est toujours pas encore à ça, pour que le joueur, il vive dans l'entreprise. Voilà. Donc voilà, c'est vrai qu'après, c'est surtout comment est devenue l'origine du sport. et quel regard on a par rapport au sport, et quel regard ont les Allemands ou les Hollandais ou les Belges sur le sport par rapport à nous. Il ne faut pas le regarder d'une façon premier degré, tu vois. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est comment le sport est arrivé dans notre nation et quel regard. Par exemple, tu vois, quand tu es footballeur, Joanne, quand tu es footballeur et que tu vas jouer en Angleterre, en Italie, en Espagne, tu es hautement respecté. C'est une profession qui est, ou en Allemagne ou en Hollande, ce sont des gens qui sont respectés. C'est vrai que nous, on passe pour des blaireaux. Auprès du peuple, les footeurs, on est toujours les blaireaux, les incultes. Et maintenant, on va s'inventer parce qu'on est
d'accord. Les amateurs de foot sont vus comme des beaufs, du coup.
Voilà, alors voilà, on est vus comme des beaufs, les footballeurs comme des ignares et des incultes. Bon, voilà. Et alors que ce n'est pas du tout le cas si tu vas en Angleterre, si tu vas en Italie, ou si tu vas en Espagne ou en Allemagne. Donc tout ça est lié, même si je pense que les générations qui viennent, elles ont un tout autre regard et que ça évolue quand même.
Mais justement, est-ce que cette nouvelle génération, on voit de plus en plus de gens qui s'intéressent au football, qui essayent de le théoriser, des universitaires, etc. Mais on a le sentiment que le système pour devenir entraîneur en France est un peu plus complexe ou un peu plus difficile à pénétrer que dans d'autres pays, comme les Pays-Bas, comme le Portugal, où c'est ouvert à beaucoup plus de gens qui sont pas forcément issus du sérail. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin en France, justement, de pratiquer une plus grande ouverture pour justement permettre de renouveler un petit peu les idées, les théories, les systèmes? Est-ce qu'on gagnerait pas en France justement à être un peu plus ouvert et accepter des éléments extérieurs entre guillemets qui apporteraient autre chose, comme le Portugal a fait sa révolution footballistique, comme les Pays-Bas l'ont fait?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Également.
Oui, c'est ça. Je veux dire que dans la plupart des pays, depuis quelques années, on n'a pas besoin de passer par l'université. Que dans la plupart des pays, t'es obligé de passer pour avoir les diplômes d'entraîneur. C'est le cas des Portugais, c'est le cas de pas mal de. T'es obligé de passer par l'université. C'est qui ouvre une perspective beaucoup plus large de d'instruction. Ensuite, je reconnais que je ne sais pas si c'est comme ça à l'étranger parce que j'ai pas assez voyagé, mais nous c'est très consanguin entre guillemets. Moi j'avais mon ami André Menot qui était mon ami et mon mentor et qui m'a aussi donné l'envie d'être coach. André il disait qui était doyen de la fac de sport de Bordeaux, qui avait plusieurs agrégations. Voilà, c'était vraiment un intellectuel et lui disait moi je suis pas reconnu du monde universitaire. Alors que le mec, il avait des doctorats, des règles, parce que je fréquente des footballeurs. Et fréquenter des footballeurs, c'est péjoratif pour le monde universitaire. Et au football, je ne suis pas reconnu parce que je n'ai pas été joueur de football professionnel. Et voilà, parce que ouais, c'est vrai qu'on est très, entre guillemets, très consanguin. Que pour être reconnu, comme je disais certains de mes adjoints, passez vos diplômes, les gars. Parce que si vous n'avez pas été pro, au moins passez vos diplômes, qu'on reconnaisse par vos diplômes. Parce que si vous n'avez pas été pro, c'est difficile qu'on vous regarde dans les yeux, chez nous, c'est comme ça. C'est, bon, voilà, c'est vrai, c'est un peu vrai, c'est vrai, je reconnais. Et je reconnais à mon grand regret, et aussi, comme étant footballeur aussi, je me dis, oh putain, c'est pas bien de notre part. À nous.
On gagne toujours à s'ouvrir aux autres, à différentes visions, à des gens qui apportent autre chose, qui ont étudié plein de domaines. Je trouve qu'on. Mais c'est valable pour le sport comme dans plein d'autres activités, plein d'autres domaines.
C'est valable pour tout. Moi, tu sais, Joanne, j'ai pas été un très grand joueur, mais j'ai fait quasiment 300 matchs en Ligue 1, à part la sélection A que j'ai passé dans toutes les sélections. Mais. Après 15 ans de professionnalisme, je, je me disais des fois, avec le discours avec les copains, que j'adorais fréquenter mes copains, mais je dis c'est très, entre guillemets, c'est très consanguin, c'est toujours les mêmes choses qui revenaient. Et le jour où j'ai connu André Menot, que j'ai connu au centre de formation des Girondins, et qu'après j'ai continué à fréquenter, que j'ai fréquenté jusqu'à son dernier jour, qui était universitaire, mais lui, il m'a apporté une vision et un regard complètement différent sur, sur mon sport, sur la société, parce que ça allait beaucoup plus loin que le simple fait de pousser un ballon tous les jours. Tu vois ce que je veux dire ?
Bien sûr.
C'était vraiment le paradigme de la politique. Et la, pour lui, le football, c'est la complexité de la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, il disait, entraîner, c'est un métier impossible, parce que c'est lié à l'enseignement et à la gouvernance.
C'est vrai.
Tu vois, c'est ce que disait Freud. Et soigner, gouverner et enseigner, c'est les trois métiers impossibles qu'il y a, disait-il Freud. Et il avait repris ça, André. Et moi, pourquoi je me suis de nouveau passionné pour mon sport, c'est grâce à des gens comme ça.
Qui vous élèvent intellectuellement et qui vous permettent de découvrir d'autres univers.
Ouais.
Alors, l'une des spécificités du championnat de France, mais c'est aussi valable, on parlait du Portugal et des Pays-Bas, c'est ce que j'appelle, entre guillemets, la deuxième division européenne, c'est-à-dire derrière les quatre grands leaders européens que sont l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre. Il y a une volonté qui est quasiment une obligation, en fait, économique de former des jeunes joueurs. L'AGIA, vous êtes entraîneur aujourd'hui, est réputée, évidemment, pour la qualité historique de son centre de formation. Et il y a une volonté chez les dirigeants actuels de lui redonner toute son importance. On sait que depuis quelques années, il y a un nouveau centre de formation qui a été construit, qui est très moderne, pour le coup. Est-ce que ça a été un élément moteur de votre décision de venir à l'AGIA? Parce qu'on parlait de projet. Aujourd'hui, quand on va chercher Jean-Marc Furlan, on veut un projet. Un projet, ça, ce que vous expliquez lors d'interviews, ça prend généralement 3 ans. On le construit sur 3 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, d'avoir un centre de formation qui doit redevenir performant, avec des jeunes joueurs, on en a vu, hein, par exemple Marcelin qui est parti à Monaco, qui était un pur produit du centre de formation, est-ce que c'est un élément moteur aussi pour vous aujourd'hui, pour vous séduire, de vous dire, voilà, tu auras des moyens, parce que la GIA a des moyens, il y aura des moyens humains, des moyens techniques, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été refaites, la pelouse, le centre d'entraînement, etc. Est-ce que ça a été un élément moteur dans cette idée de projet à la GIA pour vous convaincre de rejoindre la Bourgogne ?
Oui, c'était un élément moteur, mais pas essentiel, pas seulement ça. Parce que c'est en France, autant maintenant, on peut dire quelque part, pendant pas 40 minutes, on a dit oui, nous il faut le français. On n'a pas trop de velléité pour prendre des risques, pour être audacieux, sauf que quand même, le football français est de très loin le football qui forme les meilleurs joueurs du monde, derrière le Brésil. Et le Brésil, contrairement à nous, ils sont 200 millions, hein, grosso modo. Hein. Et nous, on est 70 millions. Et les entraîneurs français sur la formation, sur les présidents français, les dirigeants français... Et le football français est le meilleur du monde. Et c'est lié à nos présidents, nos dirigeants, sur la formation. Et c'est nous qui avons, et c'est aussi lié à notre politique d'intégration, hein, grâce à nos politiciens, c'est nous qui avons, petit pays, par la surface et le nombre de trucs, qui avons le plus grand nombre de joueurs, de talents dans le monde. Quand tu vois que, à la dernière Coupe du Monde à Moscou, et c'est très récent, hein. Il y avait 4 sélections de joueurs au total. C'est-à-dire que tu avais plus de 50 joueurs, 4 fois 22, qui étaient de joueurs qui étaient nés en France et formés dans un club français. Il n'y a aucun pays au monde qui se permet ça. Il y a cette qualité-là. Donc c'est la vraie grande qualité du football français qui produit effectivement les meilleurs joueurs du monde. Grâce aussi... C'est le paradigme de la politique, c'est grâce aussi à nos politiciens, grâce aussi à la mentalité du français, qui est une mentalité de gens ouverts sur le monde et qui acceptent les gens. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial de la part de notre pays, quoi, et des gens qui vivent dans ce pays, ça, des Français. Et la formation, oui. Mais quand je viens à la GIA, au départ, il y a beaucoup de clubs en France. Effectivement, c'est un centre de formation de très grande qualité, où il y a un gros investissement, hein. Certainement le plus gros investissement qu'il y a en Ligue 2 sur le centre de formation.
Bien sûr, ouais.
Mais avant tout, pour être très franc et très honnête, ça tout le monde le sait, enfin, moi je viens surtout sur des relations humaines, que ce soit très clair. C'est que maintenant, le choix que je fais, alors à tort ou à raison, c'est, je n'ai pas de perspective en me disant est-ce que c'est là qu'il faut aller ou pas aller. J'avais plusieurs clubs de Ligue 2, mais moi je viens parce que les relations que j'ai eues avec Cédric Dory et Francis Gray ont été extraordinaires. Et le rendez-vous que j'ai eu avec M. Zou a été aussi extraordinaire. Et je viens pour des raisons humaines. Et c'est ce qui me guide, moi, dans ma vie, qui m'a toujours guidé, c'est que quand je rencontre le président, le directeur sportif, ou ça me plaît ou ça ne me plaît pas, et là je viens ou je ne viens pas. Après, je sais que le football français est particulièrement à la GIA, effectivement, mais c'est très clair que pour revenir à ta question, dans le projet du club, le projet, il est essentiel, M. Zou l'a dit, M. Mariani, c'est qu'effectivement, on doit s'appuyer pour construire une équipe de Ligue 1 sur nos jeunes. Il faut aussi avoir les moyens de les garder, parce que, regarde, moi je suis là depuis 10 mois, mais on a déjà vendu Fomba et Marcelin, tu vois. Donc c'est déjà la preuve que ce club forme des jeunes. Après, il va falloir effectivement trouver une certaine dimension pour que ce qui est très difficile, c'est pas lié à M. Zou, à M. Gray, parce que c'est très compliqué quand tu es un jeune. Si tu es en Ligue 1, ok, il ne bougera pas. Mais quand tu es en Ligue 2, que tu t'appelles la GIA ou n'importe qui, quand un très grand club de Ligue 1 vient et te dit « je veux ce joueur », c'est très très difficile à l'heure actuelle. Ce n'est plus le cas de l'époque de Giroud ou de Suodo à Nantes, où les joueurs ils restaient, ils ne bougeaient pas. Il n'y avait pas ces transferts de très haut niveau et c'est les salaires de très haut niveau aussi qui donnaient l'envie aux joueurs de se déplacer.
Et justement, en tant qu'entraîneur, est-ce que ça vous frustre, ça? Par exemple, vous avez commencé un processus avec le jeune Marcelin, qui s'est interrompu au mois de janvier. Alors, je prends Marcelin, mais ça pourrait être voilà n'importe oui. quel joueur. Mais est-ce que ça frustre un entraîneur, ça,
oui,
de se dire...
Oui, aussi, pareil. Sincèrement, on ne peut pas. Tu ne peux pas travailler avec l'idée de frustration du tout. Non, non. Autant, moi, effectivement, j'aurais préféré que ces garçons restent et qu'on travaille là-dessus. Mais tu dois faire corps avec la politique de ton club. Et tu ne peux pas, tu dois, sincèrement, dans le projet collectif, certes, il faut des très bons joueurs. Mais moi, comment on montre un groupe, un vestiaire suffisamment costaud pour aller haut. Et tu peux pas travailler à l'heure actuelle, en te disant, t'es frustré de ce genre de truc. C'est le business. Et c'est incontournable d'accepter ça. Sinon, tu peux pas entraîner. Il faut accepter les tenants et les aboutissants du quotidien des clubs dans lesquels tu es. Tu vois ce que je veux dire?
Et justement, on parlait donc des jeunes joueurs et de la nouvelle génération. Il y a quelque chose qui est très marquant chez les sociologues aujourd'hui quand ils parlent de la nouvelle génération, et c'est pas lié simplement au sport, hein, c'est lié aussi à l'éducation, à la scolarité, etc. Ils expliquent que la nouvelle génération, elle est sursollicitée au quotidien par beaucoup d'éléments extérieurs, notamment à travers les écrans. Donc on parle des smartphones, des ordinateurs, des tablettes, etc. Et que aujourd'hui avec la nouvelle génération, et on en revient un peu à l'école, il est difficile de fixer leur attention plus de quelques minutes ou quelques secondes. Disons qu'ils ont une faculté à zapper très rapidement, de passer à autre chose très rapidement si on n'arrive pas à fixer leur attention. Est-ce que vous, du coup, qui entraînez depuis quelques années maintenant, est-ce que ça a changé la manière d'organiser votre travail? Par exemple, je sais pas, devoir varier les exercices plus souvent à l'entraînement, faire plus de pauses, faire des séances vidéo plus courtes, parce qu'ils n'arrivent pas à se fixer comme le faisait, par exemple, pas faire de discours de vieux, hein, mais de vieux cons, comme le dit l'expression, mais dans les années 80, où on pouvait faire des séances répétitives beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, où ce qu'expliquent en tout cas les sociologues, c'est qu'ils sont sursollicités, et donc il faut passer très rapidement d'une chose à une autre sous peine de les perdre, en fait.
En fait, Johan, j'ai envie de dire oui et non. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te rends compte que moi, je trouve que les joueurs qu'on a à l'heure actuelle, sont beaucoup plus, comme je leur dis souvent, vous êtes vraiment, vraiment beaucoup moins cons qu'on était nous, hein, sans déconner. Vous êtes beaucoup plus intelligents, beaucoup plus brillants dans tous les domaines, beaucoup plus capables d'être tolérants dans plein de domaines, et ça n'a rien à voir avec les générations qu'on a connues. Alors, ce qui est vrai, c'est que il faut complètement s'adapter dans le travail, et c'est pas pour ça que dans la méthodologie de fond, mais ce qui est, tu vas changer ta méthodologie ou tes conceptions de fond, mais en revanche, tu dois à tout prix t'adapter aux nouvelles générations. C'est pas les générations passées, les boss c'est eux. Les boss sont eux, ce sont eux les boss. C'est eux, c'est ceux qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça sera pareil quand nous on sera plus là dans 20 ans. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est oui, de s'adapter dans l'enseignement du quotidien à leur façon de vivre au quotidien. Sache que, par exemple, quand tu leur montres des images, des vidéos, ils sont très attentifs. Et ils peuvent être attentifs longtemps.
D'accord.
Parce qu'ils sont habitués à ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors, en revanche, c'est pas... où c'est compliqué pour nous les entraîneurs, c'est surtout que les joueurs de football maintenant, contrairement par le passé, ils ont un environnement extrêmement impactant. Ce qui est, et même le joueur de Ligue 2, même le joueur du centre de formation de la GIA. Et c'est ça qui va particulièrement troubler et comment on montre nos compétences au quotidien, notre capacité de persuasion des joueurs et quelles vont être les compétences dans tous les domaines, dans de nombreux facteurs des clubs de football. Leur identité, leur entité, c'est ça qui va faire la différence. Qui va faire la différence pour que le joueur de football soit convaincu de rester dans le club. Parce qu'eux, ils ont un entourage très prégnant, très impactant. Et que ce soit, et ils ont beaucoup de monde autour d'eux qui sont là pour leur dire comment il faut s'entraîner physiquement, comment il faut s'entraîner tactiquement, comment il faut s'entraîner techniquement. Donc, c'est là le problème. Il y a. En revanche, sur l'enseignement du quotidien, non, moi je dis que par rapport à la qualité de formation qu'on a en France dans les centres de formation, tu reçois des joueurs qui ont une capacité de concentration et d'attention très très importante. Même ce qu'on pourrait leur reprocher des générations comme la mienne, où attention, on était profondément débiles, attention, des mecs comme nous, on était vraiment des tueurs, hein, et qu'au contraire, ils sont très tolérants. Sont plus intelligents que nous, sont très très, ils sont très compréhensifs, ils vont être à ton écoute. Alors que nous, quand tu avais un mec comme moi au quotidien, putain, le coach, il fallait qu'il soit un héros, le type. Ah oui, donc ça c'est intéressant, figure-toi, c'est très très intéressant, parce que oui, effectivement, il faut faire évoluer ton enseignement, d'accord ? Il faut évoluer par des vidéos, il faut faire évoluer par des entretiens individuels, je vois. Ça, c'est important. D'ailleurs, c'est ce qui fatigue. Moi, c'est ce qui me fatigue le plus, ce qui fatigue le plus les coachs. Quand tu es coach et que tu veux pas, c'est ce qui se passait moi dans les années 80, quand tu veux pas te faire chier, tu fais des entretiens collectifs. Seulement dans un entretien collectif, tu sais que tu vas toucher 10 ou 15% du groupe. Il y a les mecs qui se disent, surtout au football, dans les mots MAUX du football, c'est pas ma responsabilité. Attribution causale externe. Bon, ça, c'est les mots du football. Un des trois mots du football. Mais tu te rends compte que, par contre, ce qui est très, très épuisant pour l'entraîneur, et c'est ce qu'on doit faire maintenant, et que j'ai fait évoluer moi, ce sont ou des vidéos individuelles, ou des entretiens individuels.
Vous en faites beaucoup plus qu'avant ?
Ah oui, beaucoup, beaucoup. Hein. Moi, en premier chef, autant il va y avoir des entretiens collectifs de 10-12 minutes avant les entraînements ou après les entraînements, mais le plus lourd pour moi, et c'est ce que recherche aussi pareil à l'université ou à l'école, l'élève, il recherche qu'on s'occupe individuellement de lui.
C'est vrai.
On est une société très individualiste et qui va aller encore plus là-dedans. À moins que notre crise sanitaire change les choses, ce qui m'étonnerait fort. Mais donc, comment tu t'occupes de l'individu, tu vois? Et ce qui est très lourd, c'est ça, c'est que, effectivement, moi, j'ai beaucoup, toutes les semaines, le plus lourd pour moi, c'est les entretiens formels ou informels, solennels ou pas solennels, que j'ai avec les joueurs de 3, 5, 10 minutes, un quart d'heure, vois-tu? Voilà. Ou après les vidéos avec les vidéos individuelles, qui nous permet de faire évoluer les choses, quoi.
Et on a aussi noté une évolution aussi dans le nombre de personnes qui composent les staffs techniques, par exemple. Est-ce que c'est aussi une conséquence de ça? C'est qu'on a besoin de beaucoup plus de ressources humaines aujourd'hui pour gérer les joueurs, parce qu'ils sont très demandeurs de, vous l'expliquez, de réunions individuelles, de discussions individuelles. Alors ça peut être sur, c'est du management pur parfois, c'est des vraies relations humaines. Ça peut être sur du football purement terrain, ça peut être sur de la vidéo, ça peut être sur de la nutrition par exemple, où ils peuvent être demandeurs de conseils. Est-ce que c'est aussi pour ça que les staffs se sont élargis et vous, comment vous avez géré cet élargissement des staffs où il y a de plus en plus de personnalités avec des spécificités vraiment très précises pour répondre aux besoins des joueurs?
Ouais, en fait, Joanne, nous, en France, on est parmi les pays où on a été les plus longs à élargir les staffs. Et on est encore parmi le pays où il y a à moins les entraîneurs étrangers qui viennent et qui, eux, imposent au président un staff très, très élargi. Mais on fait partie des pays où les staffs sont les moins développés. tu vois, même si ça augmente. Ce que me disait aussi mon ami Thierry Gomez, qui me disait, putain, coach, avec le coach, il faut toujours prendre, il faut prendre plus de staff que de joueurs. Ouais, c'est ce que je disais, moi, à Daniel Mazzoni ou à Thierry Gomez. J'ai dit, non, tu m'enlèves deux ou trois joueurs, ça va te coûter moins. Par contre, tu m'augmentes l'environnement des joueurs pour qu'on soit... C'est l'exigence. C'est aussi l'exigence du football. C'est aussi la popularité du football. Cette envie que les gens ont envie de voir des matchs de football à la télévision ou de voir des matchs de football. Et comment l'exigence... Je discutais avec des copains qui étaient entraîneurs en Angleterre. Où là, j'ai le sentiment que le cercle, il n'est plus vertueux. Mais ils me disaient, voilà, quand on est en déplacement, je ne citerai pas les coachs, mais parce que... voilà. Mais ils me disaient, voilà, nous... 26 à 28 membres d'encadrement, de staff, technique, physique et tout ça, pour 22 joueurs en Angleterre. Donc là, je ne crois plus que le cercle soit vertueux, mais n'empêche que c'est ça. Donc nous, on est très très loin de ça. On est très loin, mais c'est indispensable, effectivement, comme tu viens de l'exprimer, que nous, en plus, on soit, et c'est là où c'est difficile, on soit des gens où il y a une... Parce que le plus facile, hein, c'est très simple, hein, plus facile, c'est d'être toi, un adjoint préparateur athlétique, et tu plies. Comme ça, c'est très facile à gérer, ça. C'est plus l'entreprise. Si tu veux être manager de qualité de haut niveau, le plus dur, c'est quand tu as 8 ou 10 mecs à gérer, 2 analystes vidéo, 3, 2 préparateurs athlétiques, et comment tu gères au quotidien l'harmonie de tout ça. Mais n'empêche, c'est ce que te demande maintenant l'exigence du sport professionnel de haut niveau et du football en particulier. Et nous, de ce point de vue-là, ceux qui ont le plus entamé ça, ce sont les Italiens dans les années 50-60, où ils ont eu des staffs très élargis, et après les Anglais ont pris le relais. Mais nous, dans ce domaine-là, on est encore un peu loin des autres, quand même, même si ça augmente. Vois-tu, ce qui est indispensable, hein, parce que tu te rends compte que la précarité du footballeur professionnel, ce que le peuple français ne connaît moins que je me plais à dire, elle est, je ne parle pas du joueur du PSG, de l'international, de la Formule 1. Ouais, je ne parle pas de la Formule 1, comme on dit. Moi, j'en ai eu 3 ou 4 Formule 1. Quand tu as des Formule 1 entre les mains, tu dis, putain, c'est de la rigolade, quoi. C'est impressionnant. Tu leur fais 3 ou 4 entraînements, les mecs, ils ont par jour. Les mecs, ils rigolent. Tu leur fais 3 matchs par jour, ils rigolent. C'est des Formule 1. Bon. Les joueurs ont besoin, effectivement, parce qu'il y a une précarité extrême. La carrière d'un footballeur professionnel, c'est 4 ans et demi en France. 3 ans et demi en Angleterre. La moyenne. Donc, tu as une précarité intellectuelle, une faiblesse intellectuelle qui est forte parce que les joueurs, ils ont peur. Comment tu les aides à faire carrière? Parce qu'ils ont toujours peur que ça s'arrête du jour au lendemain. Et ça, au-delà du fait qu'il faut arrêter de dire que le football, c'est un sport fatigant sur le plan physique, arrêter les conneries, à part le joueur qui fait 80 matchs par saison, lui, il est très fatigué, oui, mais il a très peu. Mais les autres, c'est pas physiquement difficile. Par contre, c'est très très exigeant sur le plan mental. Il y a une exigence incroyable qui rend les joueurs très anxiogènes, très anxieux et très dépressifs.
Le stress du quotidien est très impactant, du coup.
Oui, oui. Mais d'ailleurs, toutes les études le prouvent. Les études le prouvent que, voilà, pour dans les 5-6 pays européens occidentaux majeurs que nous sommes, si la personne lambda du quotidien, c'est 14 ou 15% de dépressifs et d'anxiété. Chez les footballeurs, les études le prouvent, chez les footballeurs, c'est 38%. En Allemagne, c'est 3 suicides dans les 10-15 dernières années, des mecs à l'activité. Donc là, tu dois t'approcher, c'est là où tu dois encadrer le joueur et l'aider. L'aider pour... Ça, c'est très important, ce côté-là.
Et justement, vous êtes d'accord avec cette fameuse formule où aujourd'hui, on explique, enfin, où des entraîneurs ont expliqué, que le métier, c'était 30% de football pur et 70% de management, de relations humaines, de développement personnel avec avec les joueurs.
Oui, oui. Même si moi, je suis très attaché au fait que sur le plan du jeu, comme je leur dis, non, tu fais pas ce que tu veux. Ça, c'est impossible. De la première sortie du ballon jusque de ta ligne de corner jusqu'à la ligne de corner là-bas, tu respectes tout ce qu'on a décidé ensemble de A à Z. Et après, ta créativité, elle vient qu'après. Mais ça rassure le joueur aussi. Même si j'insiste beaucoup là-dessus, où ta question, ou ton affirmation, elle est tout à fait vraie. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'à l'heure actuelle, l'entraîneur qui va n'importe où dans le monde, dans une équipe professionnelle qui va réussir, c'est avant toute chose, avant d'être un très grand technicien, tacticien, c'est un gars très très fort dans les ressources humaines. D'ailleurs, tu les vois, tous ceux qui sont au plus haut niveau, ce sont des gens qui, avant toute chose, sont des grands politiques, entre guillemets, et des grands managers de ressources humaines. Ça, c'est vrai.
Et justement, comment vous êtes formé à ça? C'est quoi? C'est des conférences, lire des livres, rencontrer des managers, en tirer des leçons, des expériences, ou même votre propre carrière? C'est-à-dire qu'on fait des choses au début, puis peut-être qu'on se rend compte que c'est pas la bonne manière d'aborder les choses, et donc du coup, après, l'expérience suivante, on change un peu notre vision des choses. Comment on devient un bon manager d'un groupe de footballeurs?
Après, tu as raison, mais là, le truc, c'est que tu as des gens qui ont des qualités naturelles pour ça et qui sont très doués pour ça, qui jouent en Ligue des Champions dans le domaine des ressources humaines, naturellement.
Ouais.
Et puis qui vont être un peu moins bons sur l'aspect structurel, technico-tactique. Mais sincèrement, tu ne peux pas, à l'heure actuelle, quand tu veux être coach de football d'un club professionnel où tu as tous les matins 45-50 personnes à gérer, tu ne peux pas avoir une remise en question permanente. Tu ne peux pas dire « je sais ». Le mec qui dit « je sais », « je connais le foot », « je sais », celui-là, c'est le gros menteur. Parce que tu te rends compte que plus tu as de connaissances, plus il faut aller en chercher d'autres. Et plus il faut savoir être à la fois, avoir une cohérence dans ton discours, dans le logos, ce que disait André Monod, parce que si tu n'as pas de cohérence, le joueur, il baisse la tête, il ne te reconnaît plus.
Ouais, et puis il va vite le repérer si on a un discours
exactement.
Qui n'est pas...
Ouais, ouais. Il te faut une grande cohérence, mais n'empêche que tu dois t'enrichir et être toujours dans l'enrichissement quotidien. Et comment tu progresses, comment tu peux lire, comment tu peux t'instruire, comment tu peux aller chercher des idées. Comme disait Pablo Picasso, le bon artiste il copie et le très grand artiste il vole. Mais oui, voilà, comment tu vas effectivement aussi voler des choses à droite ou copier des choses à droite, à gauche. Mais tu ne peux pas rester les deux pieds dans le même sabot. Tu es obligé toujours de chercher à progresser. Et la deuxième chose, tu ne peux pas dire je sais. Le mec il dit je sais. Voilà, c'est mort. Tu es obligé toujours à te dire que... Alors, par contre, tu peux envoyer tes convictions sur le plan technico-tactique et tout ça, mais comment tu cherches toujours à progresser, à avancer? En ce qui me concerne, moi, je lis, j'adore lire, et puis j'adore aussi parler avec des gens qui... des enseignants ou des spécialistes, ça, j'adore ça.
Des personnes inspirantes, comme on dit un peu actuellement.
Voilà, c'est bien, ouais, ça c'est beau ça, des personnes inspirantes. Mais en aucun cas, tu dois te dire, je sais, non, c'est comment tu progresses tous les jours. Si tu n'as pas cette conception-là, le monde des jeunes et l'exigence du football professionnel, où il y a énormément, sur le plan économique, énormément d'argent en jeu, énormément aussi de bonheur à transmettre aux gens, quoi. Comment tu transmets ce bonheur? Comment tu as aussi, il y a un aspect sociétal. Comment nous, on a envie de reprendre? C'est pas parce que j'ai envie forcément de faire des matchs alors qu'il faut reprendre vite. C'est parce que tu as envie de donner du bonheur aux gens. Voilà, c'est tout. De donner envie aux gens de leur changer les idées. Et ça, ça me semble très important aussi, quoi.
Je fais juste un petit bond en arrière avant de boucler cet entretien. On a beaucoup parlé de la jeune génération et de comparer votre génération avec la génération actuelle. Est-ce que vous avez l'impression qu'on véhicule une mauvaise réputation du jeune footballeur aujourd'hui? Par méconnaissance, peut-être, ou par mauvais esprit aussi, sans doute?
Ouais, ça dépend. Je crois qu'il faut pas faire des généralités. Mais on a toujours aimé taper sur les footballeurs. Peut-être parce qu'on est un pays qui se veut intellectuel, Je crois qu'on a une mauvaise perception du footeux. Moi, je suis né dans un pays où on joue au rugby. Je suis né à Sainte-Foy-la-Grande où avant tout il y a du rugby. Il y avait très peu, voilà. Et où est né aussi Hugo Mola. Mais moi je vois aussi que quand j'étais à Bordeaux, quand j'ai vécu à Bordeaux, que j'étais cru, le plus avec qui on se fréquentait, c'est les joueurs de rugby. On est toujours ensemble. Et ils voulaient toujours être avec nous. Ils se régalaient. Donc pourquoi toujours dire que le foot... Ça c'est vraiment l'image du footballeur où... Alors que tu te rends compte, on est le seul pays en Europe dans ce domaine-là. Mais c'est vrai, je reconnais. Mais il ne faut pas en faire une généralité non plus. C'est pas tous les gens qui font ça.
Vous n'êtes pas dans le c'était mieux avant, tout était mieux avant, et la nouvelle génération, l'ancienne génération, c'est plus facile, plus respectueuse, blablabla, tout ce genre de discours qu'on a beaucoup entendu.
Mais non, faut arrêter quand on est jeune, ça déconne. Quand tu vois, moi je dis qu'il y a une, effectivement, nous on avait nos qualités, c'est notre époque, mais quand je vois, moi, la progression que peuvent avoir les joueurs, d'abord le travail effectué par les centres de formation, par nos entraîneurs, par l'enseignement dans les centres de formation, où l'enseignement est excellent. Tu peux mettre ton gosse dans le centre de formation, pas pour qu'il soit footballeur, mais pour qu'il fasse un très bon enseignement. Ils sont très forts en France pour ça, on est très forts pour ça. Donc, tu te rends compte que moi, je le dis souvent à mes joueurs, c'est souvent, j'ai dit, putain, ça déconne, nous, on était beaucoup plus cons que vous. Hein. Quand tu avais affaire à Furlan au quotidien, il fallait que tu sois très costaud, je te le dis. Quand tu étais entraîneur à l'époque, que tu avais affaire à Furlan, il fallait que tu sois gaillard, hein, tous les jours, hein, je te le dis. Tandis que maintenant, c'est plus beaucoup plus agréable de diriger les joueurs. Hein. Très, très agréable.
Et pour boucler cet entretien, on va revenir au terrain une dernière fois. Si on devait déterminer les deux mots les plus importants du Jean-Marc Furlan entraîneur, est-ce que ça serait émotion et spectacle?
Alors, oui, c'est bien ces mots, mais même si le mot spectacle dans le sport, mais oui, c'est bien. Mais c'est l'idée aussi, le sens que tu donnes pour, quelque part, partager avec autrui, partager avec les joueurs, partager avec le public. Voilà. Partager avec autrui le sens que tu donnes, le sens que tu donnes à ta vie. Et moi, je dis que le sens que je donne, c'est comment le mec qui vient au stade, qui veut partager avec sa famille ou avec ses copains, partenaires du club, actionnaires, ou le public, les supporters, les ultras, comment ils sont heureux, comment tu leur donnes du sens parce qu'ils ont envie de boire des bières ensemble, ils sont heureux de voir leur équipe. Et je pense que ça va... Certainement, bien sûr qu'on aime gagner, mais ça va au-delà du résultat, Johan. Je pense que, enfin, en ce qui me concerne, quoi, dans l'esthétique, entre guillemets, dans l'esthétique. Plus que dans le spectacle, c'est quelque part l'esthétique que tu donnes. Voilà.
Et pour finir, si vous aviez la possibilité d'inviter une personne à participer à ce podcast, qui vous choisiriez? Est-ce que ça serait un entraîneur? Est-ce que ça serait un préparateur, quelqu'un qui aurait des belles choses à nous raconter sur son métier, sur sa vision du football, etc. Est-ce que vous avez un nom à nous glisser comme ça en fin d'entretien?
Oh, voilà, les questions, elles sont un peu hyper difficiles. Moi, si j'avais un premier... Alors, tu voudrais dire un footeux ou pas du tout
pas forcément, ça peut être aussi quelqu'un qui s'intéresse au football et qui aurait un discours intéressant sur sa vision du football.
Moi, je dirais, alors à part, je pourrais te citer plein de footeux que j'aimerais rencontrer, revoir, mais ou Edgar Morin ou Michel Serres. Voilà, ça, c'est vraiment la vie de tous les jours qui t'explique très en profondeur, quoi. C'est passionnant.
Je lancerai du coup les invitations. Merci Jean-Marc Furlan pour votre disponibilité et pour cet entretien de très grande qualité. Merci à vous.
Merci à vous. Merci Joël.
Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est en effet une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je remercie une nouvelle fois Jean-Marc Furlan pour sa disponibilité et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.